They do not have to buy in.
You just said that. You just said that 2 minutes ago. You just said 2 minutes ago that they would have to buy in. You said they would have to buy in.
Have to buy in. If she qualifies for Medicaid,
are you forgetting what you said 2 minutes ago?
Be in for it.
Are you forgetting already what you said just 2 minutes ago?
Ouch. Ça, c'est dur comme commentaire. Alors, c'est Julian Castro, candidat à l'investiture démocrate, qui dit à Joe Biden, tu te souviens pas de ce que tu as dit là? Il y a 2 minutes.
Une référence
à son âge.
À peine voilée à son âge.
Le public n'a pas aimé ça. Hein?
Mais non, et on l'a entendu. C'est ouf, vraiment une réaction viscérale parce que tout le monde présent et tous ceux qui regardaient à la télévision savaient très bien qu'il était question de l'âge de M. Biden qui, on le sait, a 76 ans. Donc, évidemment, l'enjeu numéro un lorsqu'il se fait attaquer à la fois par ses adversaires démocrates et surtout par Donald Trump depuis des mois, c'est son âge. Pas nécessairement de façon toujours aussi directe que ça, des fois de façon plus indirecte en disant qu'il a été très longtemps à Washington, qu'il a eu une très, très longue carrière, qu'il est d'une autre époque, etc. Donc hier, je dirais que ça a été vraiment le moment qui est venu retenir l'attention de bien des gens.
Donc un autre débat qui était vraiment clé, parce que bon, là, on a fini la série des deux débats en deux soirs, le nombre de candidats s'est résorbé un petit peu. Est-ce qu'il y a un gagnant hier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en sort avec les honneurs?
Indirectement, Joe Biden, à la mesure où, justement, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de vainqueur clair et parce qu'il a bénéficié, veut pas, là, d'un espèce d'effet boomerang, parce que l'attaque contre lui qu'on vient d'entendre était tellement vicieuse que Biden s'en sort assez largement indemne et c'est important dans un contexte où il mène encore. Donc, s'il n'y a personne qui est capable de le battre en débat, écoute, on est seulement au mois de septembre, il reste beaucoup de temps, on le dit toujours, mais si ça continue comme ça, le type va pouvoir garder son avance. Mais il y a un énorme mais à ça. Le vote présentement, le plus à gauche du Parti démocrate, reste fracturé. On l'a vu hier. Les Kamala Harris, les Bernie Sanders, les Elizabeth Warren de ce monde se disputent en énorme partie les mêmes électeurs. Qu'est-ce qui va se produire au lendemain du 4e ou du 5e ou du 8e débat quand un ou l'autre ou deux ou trois ou quatre de ces autres candidats-là vont décider de jeter l'éponge et que là, Biden va peut-être moins pouvoir bénéficier de la division du vote? Ça, on ne le sait pas. Je me permets aussi, Philippe, de mentionner le 4e débat qui s'en vient dans à peu près un mois, au mois d'octobre. Parce que tu dis que là, c'est fini les séances de 2 débats. Pas nécessairement. Dans un contexte où les critères d'admissibilité pour le 3e débat sont les mêmes que pour le 4e débat. Donc, tous ceux qui sont qualifiés pour le débat d'hier sont automatiquement qualifiés pour le débat d'octobre prochain. Par contre, il y en a qui ne se sont pas qualifiés hier, qui ont encore le temps de se qualifier pour le débat du mois prochain. Et si ça devait se produire, on était à 10 candidats hier. C'est le maximum que le Parti démocrate tolère pour avoir sur une seule scène. Donc, on aurait, en théorie, besoin de seulement une autre personne de plus qui se qualifie le mois prochain. Et qu'est-ce qui se passerait? On aurait un retour à 2 débats sur 2 soirs.
Il me semble que c'est contre-productif, ça, pour le parti.
Bien, c'est ça le risque, je te dirais. Par contre, de l'autre côté, je te dirais que si on avait 2 débats sur 2 soirs, mais avec disons, 12 candidats au total, ce qu'on aurait, ce serait des débats à 6 personnes. Ça ne serait pas ce qu'on a depuis le tout début, c'est-à-dire soit 2 ou 1 débat avec 10 personnes. Hier, là, c'était difficile d'avoir de vrais échanges parce que, écoute, même les personnes qui ont parlé le plus longtemps ont eu quoi? 10,
ben
11,
oui.
12 minutes.
Je voyais le temps de parole. Je pense que c'est Biden qui a parlé le plus longtemps avec 14 minutes. Là, c'est pas énorme pour un débat.
Et c'est pas énorme pour un débat qui a duré 3 heures.
3 heures.
Hey, c'est long, là. Je comprends qu'il y a des pauses pipi, là, mais c'est long pareil. Et les débats de l'élection générale, c'est 90 minutes. Ça, c'était le double. Et il y a 10 candidats, il n'y en a pas 2. Donc, ça, c'est très spécial présentement, la dynamique, mais elle ne va pas durer ainsi éternellement. Et quand, éventuellement, il va y avoir un réel rétrécissement, un réel amenuisement du nombre de candidats, la dynamique de la course va changer. Parce qu'à date, on fait beaucoup de surplace. Ça fait des mois que la campagne dure, mais fondamentalement, il n'y a pas encore grand-chose qui a bougé.
Bon, et c'est ça. Puis, il n'y a aucun candidat, là, à part Biden, ou qui s'oppose à Biden, qui a réussi véritablement à ressortir du lot débat après débat ou semaine après semaine. Et il y en a un Warren, tout à coup, une bonne période. Puis, Kamala Harris a une bonne période. Mais il n'y a personne qui est capable de tenir ça longtemps.
Tu as absolument raison. Et je veux mentionner rapidement, pour finir sur le sujet du débat, Kamala Harris. Parce que lors du premier débat, elle est allée chercher toute l'attention parce qu'elle avait vraiment asséné un coup de poing, là, très brutal, ouais, à Joe Biden, justement. Et là, tout le monde se disait, une star est née. Là, ça fait 2 autres débats qu'elle a. Elle est vraiment ordinaire. Et hier, je te dirais, en particulier, il y a une question qu'elle s'est faite poser sur le commerce. Et je te dirais que sa réponse, c'est un petit peu l'équivalent du McDonald's, là, de manger du McDo. C'est-à-dire qu'elle a essayé de remplir tout le monde, mais c'était complètement vide, des calories vides. Et donc, effectivement, il y a beaucoup Il y a très peu, en fait, de candidats à date qui sont capables de tenir tête à Biden sur une longue durée. Est-ce que ça va changer? Il faudra voir.
Raphaël, il nous reste moins d'une minute trente. Tu veux nous parler aussi du sénateur Rand Paul?
Oui, et surtout de son voisin, qui a un nom assez mémorable pour nous, Québécois et Québécoises, René Boucher. Un voisin de sa demeure au Kentucky qui l'avait attaqué, écoute, sauvagement, il y a 2 ans. Le type est en... C'est un sénateur en fonction. Il est en train de couper son gazon et sorti de nulle part. Son voisin l'agresse, lui assène plusieurs coups. Rand Paul, le sénateur, se retrouve à l'hôpital avec des côtes fracturées. Eh bien, le type en question, au nom francophone, René Boucher, a été reconnu, évidemment, coupable d'avoir attaqué un membre du Congrès, ce qui est un crime fédéral. Et là, la sentence qu'il a reçue a été jugée comme étant trop clémente. Et donc, il y a un juge fédéral américain qui a renversé la sentence en disant « ce type-là doit aller en dedans et plus longtemps ». Et mais fait cocasse à ce jour, quelque chose de mystérieux là-dedans, hein, Philippe. Là. Rand Paul refuse de dire pourquoi son voisin René Boucher l'a attaqué.
Ah non,
tout
on
le
sait
monde,
pas.
Tout le monde essaie de savoir pourquoi le sénateur refuse de répondre à la question.
Bon, alors un autre mystère de la politique américaine.
Et voilà.
Raphaël, merci beaucoup. Je
merci.
Te souhaite un bon week-end. Et puis nous, ben, on se dirige vers les informations. Au retour, on aura la chronique de Luc Ferrandez, puis également François Gagnon, qui va nous parler d'économie.